an unborn child, warm, safe, secure. I want to confide with my dreams on topics of bliss, relaxed, calm and pure.
Radio G.
101.5 FM.
Bonjour et bienvenue sur Radio G à votre émission Il est l'heure, Monseigneur. Aujourd'hui, une émission un petit peu particulière puisque l'équipe n'est pas au complet entre les problèmes de santé et les indisponibilités des uns et des autres. Donc, je vous présenterai seul ce midi une émission composée de deux reportages avant de retrouver notre équipe au complet dans 15 jours. Le premier de ces reportages est un reportage sur les musées et vous inciter à vous y rendre. Vous verrez qu'ils sont accessibles à tous.
Un reportage dans le cadre d'une visite à la Philharmonie de Paris et du programme Art, Culture et Alzheimer. Le thème de l'expo, Charlie Chaplin, l'homme orchestre.
Bon, on est prêt ? On va y aller tranquillement ?
Paola est la conférencière de l'expo. Après un petit déjeuner d'accueil, elle emmène son public vers l'exposition. Son public, ce sont des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer, des aidants, ainsi que des bénévoles de l'association France Alzheimer et maladies apparentées.
L'essentiel est qu'ils passent un bon moment, qu'ils sortent un peu de leur quotidien, qu'ils écoutent de la musique, et la musique, c'est le côté émotionnel qui reste toujours et qui fait du bien.
Se bella tu sei d'ore, je ne sais ce que faire. Je notre si t'avore, je la tue la tille à toi.
Après, je ne sais pas dans leur vie de tous les jours, mais j'imagine qu'il y a un impact aussi. En tout cas, le moment présent, c'est un moment agréable et on voit qu'ils sont satisfaits.
Je la tue la tille à toi.
La conférencière évoque tout d'abord le thème de l'expo, Charlie Chaplin, l'homme orchestre.
Parce que voilà, il dirige un petit peu tout ce qu'il crée. Eh bien, on rentre et on va juste regarder le premier extrait. Je vous dis rien parce que peut-être que vous allez reconnaître. On y va ? Vous avez reconnu l'autre comique ? C'est pas lui. C'est pas lui. Buster Keaton.
À l'écran, deux pitres. Charlie Chaplin au violon et Buster Keaton au piano. Face à eux, Étienne et son épouse Barbara. Le couple est un habitué des visites de musée.
On est même accro, entre guillemets.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que ce sont des moments privilégiés où on peut éventuellement partager les choses, mais psychologiquement, ça doit être positif. Pour mon épouse, je pense que c'est une sorte de thérapie quoi, qui fonctionne à ce moment-là. Mais même si ça dure peu de temps, elle est beaucoup plus sociable, je ne trouve pas le terme exact. Et elle réagit effectivement plus que dans la vie quotidienne, où il faut la stimuler, quoi, c'est clair.
Pour Étienne, ces sorties culturelles sont également bénéfiques pour lui.
Ça me permet de prendre de la distance par rapport à l'état de Barbara. Ça permet de sortir du pire de la vie quotidienne.
Après la salle sur l'enfance de Charlie Chaplin, des sketchs et des scènes de films défilent sur un écran. Charlie le boxeur, Charlie le barbier, des vidéos, des films de Charlie Chaplin qui rappellent des souvenirs à Geneviève et Dominique.
Ben, c'est toute notre enfance. Et surtout que nous, le cinéma muet, c'était normal.
C'est notre oxygène. Déjà, mon oxygène. Et son oxygène, je pense, c'est quelque chose qui nous sort de la maladie, c'est quelque chose qui nous ouvre extraordinairement. On rencontre des couples de notre âge, ce qui est extraordinaire. On ne voit pas du tout l'Alzheimer, comme malheureusement a été ma mère en fin de vie. Et on voit que ce sont des gens qui vivent dans la société, qui ont envie de participer à leur niveau, parce qu'ils ont besoin d'être en couple, parce qu'on est leur mémoire pour beaucoup de choses, mais que c'est quelque chose qu'il ne faut pas que ça s'arrête, et au contraire, il faut que ça s'ouvre. Je ne veux pas dire que ça serait trop gros de dire ma raison de vivre actuellement, mais vraiment, c'est ce qui me permet de ne pas déprimer.
Enfin, Face au grand écran, des adultes, mais aussi des enfants qui se marrent. Des enfants qui portent un déguisement de Charlot prêté par la Philharmonie. Un côté intergénérationnel à la visite qui plaît à Geneviève et Dominique.
On adore. Moi, j'aime beaucoup faire quelque chose avec mes petits-enfants. Déjà, on le faisait avec nos enfants, mais avec nos petits-enfants, je trouve que ça approche et puis on voit comment eux, ils réagissent.
Et on a 8 petits-enfants, mais des petits qui ont 4 ans et 6 ans. Et j'ai vu tous ces enfants qui sont déguisés et ça m'a donné des idées. Pas forcément pour nous, mais ni à notre fils qui habite Courbevoie, qui peut amener ses enfants.
Après une photo de groupe devant la statue de cire de Charlie Chaplin, Paola emmène son public vers une étrange boîte en bois et un écran. C'est une boîte à bruitage et Paola invite le groupe à faire des bruitages en fonction d'un extrait de film sur l'écran.
Est-ce que Bruno, vous voulez avancer ? Tirez, lâchez ! Voilà, ça c'est des explosions, il y a un moment où la voiture elle part, voilà, allez-y. Dominique, allez-y. Ah voilà, c'est des applaudissements.
Pour entourer les aidants et les aider au musée, plusieurs bénévoles, dont Isabelle, elle est accompagnante depuis 4 ans maintenant.
D'abord parce que j'ai été concernée directement par la maladie, et d'autre part, c'est une forme de thérapie aussi. Honnêtement, pour me faire plaisir, apporter quelque chose, partager surtout avec les familles. Tout ça aussi parce que moi, à l'époque, je n'ai pas eu le privilège de bénéficier de ces moyens, et je trouve que c'est bien justement que les familles aient un peu de temps pour elles.
Après quelques extraits du film Le Dictateur, c'est bientôt l'heure de la fin de l'exposition. Paola emmène les participants vers la sortie.
Je partage, on se sent utile, on voit qu'ils réagissent bien, donc on est content. C'est voir aussi une autre réalité qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours en visite. C'est un partage en fait. Moi je leur donne ce que je peux, mais eux ils me font comprendre ce qui est important aussi.
À la fin de la visite, Paola propose au groupe d'écouter une chanson, la version de Nat King Cole de Smile, une chanson initialement sans paroles qui est aussi le thème de la romance du film Les temps modernes de Charlie Chaplin.
Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
À l'issue du reportage, nous avons rencontré Nathalie Martin et Elisabeth Parnaudot. Elles sont respectivement déléguées générales et chargées de communication et mécénat à la Fondation Swiss Life, une fondation qui finance les visites de musées et qui est un partenaire de l'association France Alzheimer et maladies apparentées et de son programme Art, Culture et Alzheimer. Nathalie Martin nous évoque tout d'abord son sentiment à la fin de la visite de l'exposition Charlie Chaplin à la Philharmonie de Paris.
J'ai ressenti beaucoup d'amour de la part des gens qui étaient présents, beaucoup de réactions, ils ont beaucoup ri tous. Il faut dire que le sujet s'y prête, Charlot, ça fait beaucoup réagir. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est l'interaction avec les enfants qui étaient nombreux ce matin. Et on voit bien que nos adultes, nos personnes malades sont très sensibles aux enfants. Donc c'est important d'être mélangé à ce public, il faut surtout pas rester isolé. C'est un peu le but de ces visites. C'est de faire mélanger les publics, de faire réagir les malades et surtout pour les accompagnants, de leur donner un moment où ils peuvent souffler, voir qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils sont accompagnés. Et on est vraiment très fiers de ce que vous faites, de la médiatrice Paola qui fait un travail extraordinaire. En tout cas, merci pour ce beau moment de vie.
Alors Elisabeth, chez Swiss Life, pourquoi soutenir ce type d'initiative, ces visites de musées ? Alors c'est parce qu'on a un gros engagement autour de la santé, donc autour du cancer et d'Alzheimer, et avec autour d'Alzheimer, on est engagé auprès de France Alzheimer depuis de nombreuses années, et on a cherché en fait à soutenir des projets originaux qui apportent du bien-être. Et c'est ainsi qu'en fait se sont développées ces initiatives de visites de musées pour les malades et leurs aidants. Comme le disait Nathalie, c'était très important de les inclure dans ces visites. Donc on a commencé en fait en allant voir des musées, toquer à leurs portes pour mettre en place ces programmes. Et puis petit à petit, ça s'est développé. Et puis les musées d'eux-mêmes mettent en place des politiques pour les publics fragilisés et empêchés. Et donc nous, on les accompagne comme ça. En fait, on va voir les musées, on leur propose ces visites, on propose de mécéner ces visites. Et puis on les met en contact avec les branches régionales de France Alzheimer. Et voilà, et puis ils se rencontrent et ils organisent ces sessions.
Alors justement, nous sommes à la Philharmonie en ce moment, mais il n'y a pas que ce lieu culturel que vous soutenez et où se tiennent des visites avec l'association France Alzheimer.
Oui, tout à fait. On a plusieurs musées à Paris, mais aussi en région, hein, parce que c'est important d'avoir une présence partout sur le territoire. Donc à Paris, en plus de la Philharmonie, on a le Palais de Tokyo, le Grand Palais et le Jeu de Paume. Voilà, comme ça, en plus, on diversifie la culture, parce que c'est aussi bien de la peinture que de la photo, de la sculpture. Voilà, tout ce qui peut faire réagir. En région, on a le musée de la piscine à Roubaix qui est notre tout premier musée pour ces visites. Et on s'est petit à petit élargi. On est à Lyon, on est présent au musée des Confluences et au musée des Beaux-Arts. On est présent à Strasbourg avec un partenariat avec les musées de la ville. On est présent à Angers aussi. On sera présent l'année prochaine à Bordeaux. Voilà, on essaye vraiment d'avoir un impact partout pour qu'un maximum de gens puissent en profiter.
Et oui, les musées sont toujours à votre disposition et vous oubliez trop souvent de les fréquenter. Ça vous aide à sortir du quotidien et à retrouver un petit peu de ressources. On enchaîne tout de suite avec un deuxième reportage dans le même sens où vous allez voir combien il est important de conserver des relations sociales. Ce nouveau reportage est extrait de la radio Alzheimer que vous pouvez trouver en version intégrale en podcast à télécharger sur le site francealzheimer.org.
Vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, une demi-heure avec vous, personnes malades, familles, proches aidants, pour répondre à chacune de vos questions autour de la maladie d'Alzheimer. Nous vous donnons la parole autour d'un thème différent toutes les deux semaines. Et cette semaine, on va parler des relations sociales. Elles permettraient de prévenir le déclin cognitif et les maladies neurodégénératives. Et pour parler de cette thématique, nous sommes avec Arkana Singh Manu, directrice de recherche INSERM, récompensée entre autres par le prix Coup d'élan de la Fondation Bettencourt-Chouel et puis professeur à l'UCL de Londres. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Alors avant d'aller plus loin, une question toute simple mais qui est importante. Qu'est-ce que c'est que le déclin cognitif et puis à quel âge ça commence ?
Alors, le déclin cognitif, c'est la diminution dans les capacités cognitives. Les capacités cognitives, c'est quoi ? C'est tous les processus qu'on utilise pour traiter de l'information. Donc, c'est le raisonnement, c'est la mémoire, c'est la façon dont on s'oriente dans l'espace. Donc, c'est tout ça, tous ces processus. Ce n'est pas juste le mémoire. La question difficile, c'est à quel âge ça commence. Pendant longtemps, on a fait des études sur le vieillissement cognitif à des âges avancés. Donc, on ne savait pas ce qui se passait avant. Il y a bien le déclin cognitif avant 65 ans. Alors, à quel âge précise, on ne pourrait pas dire. Nous, on a regardé ça à partir de 45 ans. Il y avait du déclin, mais tout le monde ne décline pas. C'est ça qui est important. Il y a une vraie différence dans la vitesse de déclin. Donc, tout le monde ne décline pas. Mais le déclin cognitif est bien là avant 65 ans.
Dans quelle mesure c'est lié au parcours de vie des gens ?
Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont associées. Il y a des gens qui regardent évidemment les facteurs génétiques. Il y a des gens qui regardent les facteurs sociaux, l'éducation. Il y a des gens qui regardent le mode de vie, le style de vie, si on fume, si on boit de l'alcool, si on fait du sport. Il y a aussi la santé cardiométabolique, donc ça veut dire tout ce qui est cardiovasculaire, lié à la diabète, contrôle de glycémie. Donc il y a tout un tas de facteurs de risque qui sont associés au déclin cognitif.
Alors, est-ce que c'est un constat aussi qui peut partir du vieillissement de la population ? On dit que les gens vivent plus tard, donc est-ce que le déclin cognitif est plus important ? Est-ce que ça joue, ces deux données ?
Alors, ce qui se passe avec l'espèce humaine, c'est la seule espèce, en fait, finalement, où l'espérance de vie a doublé au cours de 150 dernières années. On ne voit pas ça chez une autre espèce. C'est juste l'avancement dans le soin sociaux, de santé, médicaments, a fait que l'espérance de conditions de vie, que l'espérance de vie a doublé. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent jusqu'à des âges très avancés. Si tout le monde mourait à 45 ans, comme c'était le cas il y a 150 ans, il n'y aurait pas la maladie d'Alzheimer. Surtout la maladie d'Alzheimer qui arrive après 65 ans. Avec le vieillissement de la population, c'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai pour la maladie d'Alzheimer, mais c'est aussi vrai pour le cancer. Il y a de plus en plus de cancers au niveau de la population. Aussi lié avec le vieillissement de la population.
Donc on a compris ce contexte et c'était important aussi pour parler de la suite, c'est-à-dire ces relations sociales. En quoi, justement, elles permettraient de modifier ou de retarder ce déclin cognitif ?
Alors, comme je vous disais, il y a un ensemble de facteurs de risque et de protection qui sont liés avec le déclin cognitif et le risque de démence. Donc, quand on parle des relations sociales, c'est une partie, ça, c'est une chose parmi plein d'autres choses. On a regardé ça parce qu'il y a toute cette idée de la réserve cognitive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la réserve cognitive ? C'est faire face à des lésions cérébrales sans effet, sans l'impact sur le fonctionnement cognitif. On sait qu'il y a ça, il y a ce phénomène. Donc, chez les personnes, deux personnes avec les mêmes lésions, n'auront pas le même impact sur le fonctionnement cognitif. Donc pendant longtemps, on a regardé les choses comme l'éducation. L'éducation nous permet de fonctionner différemment. Donc ça a commencé comme ça, avec l'éducation. Maintenant, les gens se sont intéressés sur l'autre chose qui est présente dans l'environnement. Le contact social, l'interaction sociale fait partie d'une gamme de facteurs de risque qui est présent dans l'environnement. Donc on a voulu regarder ça, si c'était protecteur, pas protecteur, et il semblerait qu'il y a un petit effet, mais il est là.
On va en reparler bien sûr dans quelques secondes. On va écouter une question qui a été laissée sur notre répondeur, c'est la question de Pierre tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Pierre et j'ai une question. En fait, j'ai vu de nombreuses personnes s'isoler par honte, par pudeur, par peur de gêner. Et je me demandais du coup comment on pouvait conserver ces relations sociales une fois la maladie installée.
C'est une question compliquée parce que c'est vrai qu'une fois que la maladie est là, et ça fait partie de nombreux symptômes de la maladie, les gens s'isolent. Est-ce qu'il y a un peu de honte ou c'est juste pas la capacité de garder des interactions ? Donc c'est vrai que chez les personnes déjà malades, il y a un peu d'isolement social. Mais notre but, c'était pas de regarder ça chez les personnes déjà malades. Ce qu'on a fait, c'est regarder ce qui se passe à 50 ans, les interactions à 50 ans, à 60 ans, 70 ans. Est-ce que ça protège ? Donc, c'est une autre façon de répondre à la question. Bien sûr, chez les personnes malades, quoi faire ? C'est une question énorme. Est-ce qu'il faut organiser leur vie différemment? Est-ce que ça va aussi aider ces personnes déjà atteintes de la maladie? Nous, on n'a pas regardé ça. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. C'est quelque chose, ça reste une question ouverte.
Oui, parce que vous abordez le sujet en amont.
Absolument.
Et donc, d'ailleurs, vous dites « on » parce que vous avez publié, on va y venir à cette étude, vous avez publié avec vos collègues une étude dans une revue scientifique britannique qui vante justement les effets positifs des relations sociales. Alors, celle-ci permettrait de réduire de 12% le risque d'Alzheimer. J'espère ne pas me tromper quand je dis ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette étude, justement ?
Alors, donc c'était une étude qui a été mise en place en 1985 sur 10 000 personnes. Donc au début, l'idée, c'était de regarder la maladie cardiovasculaire. Ça imitait un peu une étude américaine qui s'appelle The Framingham Study. Et ils voulaient le faire en Angleterre. Donc ils ont commencé avec 10 000 personnes qui font un examen clinique tous les 4 ans, qui répondent à un questionnaire, qui sont suivies depuis 85, donc ça fait plus de 30 ans. Moi, je suis arrivée dans cette étude comme un jeune postdoc il y a maintenant 20 ans. Et je me suis dit, ils ne sont pas vieux, mais ça serait bien d'étudier le fonctionnement cognitif. Ils avaient 55 ans à cette époque. Donc, avec le financement de NIH, c'est un financeur, on a monté cette étude. Et depuis, je dirige la partie de vieillissement cognitif de cette étude. Donc, ce qu'on a fait, donc on a les données historiques, on suit 10 000 personnes avec des examens répétés, les réponses aux questions sur... Dans ce cas, sur les interactions sociales, tout au long de cette période de 30 ans. Maintenant qu'on a des cas de démence, on est retourné dans notre base de données. On a pris données sur les interactions sociales à 50 ans, quand ils avaient 50 ans, 60 ans, 70 ans, pour pouvoir justement regarder s'il y a un effet protecteur. Alors pourquoi on a fait à 50 ans, 60 ans, à 70 ans? Parce qu'on sait que la maladie d'Alzheimer se déroule sur une période, ça implique des changements physiopathologiques sur une période qui est entre 15 à 20 ans. Donc on voulait regarder les interactions sociales bien avant que la maladie soit en place. Et on trouve un petit effet, hein, même si on enlève les effets des autres variables. Il y a quelque chose. Est-ce que la question vraiment, c'est maintenant, en tant que chercheur, si on changeait l'interaction sociale de quelqu'un, est-ce que le risque va changer? Ça, on ne peut pas dire, parce que c'est une donnée observationnelle.
Mais des résultats qui sont quand même, qui vont dans le sens des relations sociales, qui sont positives en tout cas.
Absolument. Mais on sait aussi que l'éducation la protège, ça on sait.
L'alimentation.
Il y a des chercheurs qui proposent aussi que, en général, un mode de vie sain peut protéger. Donc il y a quelque chose. Maintenant, on a besoin d'établir des preuves plus solides, tester des interventions pour voir si on compare deux groupes où on a mis l'intervention en place, est-ce qu'on verra les effets. C'est ça que font les chercheurs. Il faut évidemment aller un peu plus loin.
On va écouter une question qui nous est arrivée sur notre répondeur, une autre, celle de Véronique.
Oui, bonjour Véronique. Ma question est la suivante. L'étude à laquelle vous avez participé a été basée sur la cohorte Whitehall 2. Mais j'ai vu sur Internet qu'il existe aussi une cohorte en France qui répond au nom de Constance. Et je me demandais deux choses. Est-ce que vous avez travaillé aussi sur ce projet? Et est-ce que cette cohorte a été également constituée pour la maladie d'Alzheimer? Si oui, peut-on utiliser les résultats aujourd'hui? Et sinon, y a-t-il des enseignements quand même à tirer de cette cohorte Constance pour la maladie d'Alzheimer? Voilà, un grand merci. Au revoir.
Une question très précise de quelqu'un qui semble s'y connaître, mais c'est intéressant ce qu'elle dit.
Merci beaucoup. C'est une excellente question. C'est très rare d'avoir les données sur 30 ans, sur la vie adulte entière. C'est ça l'avantage de Whitehall, d'avoir ces données de toute la vie adulte. Comme on réalise de plus en plus que les facteurs de risque jouent un rôle sur ce qui arrive tard dans la vie, les facteurs de risque tout au long jouent un rôle. Il y a des études qui sont montées un peu partout dans le monde. En Europe, il y a des grandes études. Il y a UK Biobank en Angleterre. En France, il y a Constance. Constance a été montée sur 200 000 personnes. Moi, je suis impliquée dans la partie vieillissement cognitif de cette cohorte. Donc, la collecte de données a commencé en 2012 et ça prend 5 ans pour voir tout le monde, les 200 000 personnes. Alors, la batterie cognitive qui est dans Constance a été mise en place par moi en collaboration avec d'autres chercheurs. Donc, évidemment, je suis impliquée dans la cohorte Constance. Mais le temps qu'on a les données longitudinales, donc ça veut dire répéter au cours de temps, ça va prendre un peu de temps. Mais en tant que chercheur, c'est aussi notre responsabilité de mettre ces dispositifs en place pour pouvoir étudier ça. Et une des questions de recherche qui est importante en Constance, c'est le vieillissement. Donc c'est à venir.
Justement, j'allais vous demander les suites de votre étude, de votre travail, ça va être quoi dans les années à venir ? Je suis un peu curieuse, mais...
Donc, moi, je dirige une équipe en France. La partie de vieillissement cognitif de Whitehall est dirigée par moi, donc il y a ça. Dans l'équipe, il y a aussi des gens qui travaillent avec les données de centres de mémoire, surtout de la région parisienne. Donc, on travaille avec ça. Il y a Constance. Mais comme on a les données sur Whitehall sur une période de 30 ans, avec les nouvelles technologies, les omics, donc les choses, on a fait des prélèvements sanguins tout au long de ces 30 ans. Donc maintenant, avec la nouvelle technologie, on peut mesurer, je ne sais pas, 5000 protéines d'un coup. C'est des choses comme ça qu'on voudrait regarder aussi s'il y a d'autres marqueurs qu'on peut détecter en amont, c'est ça. C'est pas très proche de la maladie. L'idée, c'est vraiment de regarder est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer à 50 ans pour changer le risque de développer la maladie. Donc, c'est des choses comme ça qui m'intéressent, mais gardons en tête aussi qu'il y a des données excellentes en France, des données de centre de mémoire, il faut les exploiter, il faut faire ce qu'on peut avec ces données, avoir un aspect longitudinal encore. Je crois que les données, une fois collectées, une fois, ne servent pas à grand-chose. Donc, il faut garder cet aspect des données au cours de temps.
Et se dire que grâce à ça, ça avance aussi. Parce que c'est aussi ça qu'on entend dans ce que vous dites.
Absolument, absolument.
Alors, il y a une auditrice qui nous a laissé un message sur Facebook, elle s'appelle Monique, elle dit que la maladie est là une dizaine d'années avant que les premiers signes arrivent chez son mari, et que pourtant, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Avoir des amis, faire du sport n'empêche rien, mon mari en fait l'expérience, pourtant il avait une vie active. Alors, est-ce que ça contredit ce que vous dites ou...
Pas du tout. Je pense que la recherche dans les 5 à 10 dernières années montre très bien qu'on voit les changements dans le physiopathologique qu'on peut détecter par moyen d'imagerie 10 à 15 ans avant le diagnostic. Donc la maladie est silencieuse, mais il est là. La maladie est dans le cerveau. S'il faut faire des choses, si on parle de prévention, il faut regarder bien en avant de l'installation de la maladie. Mais encore, ça c'est une chose que les gens doivent garder en tête, c'est qu'une maladie, il y a plusieurs facteurs de risque. Il n'y a pas juste une chose qu'on peut changer qui va changer le risque.
Bien sûr.
Et c'est identifier... Par exemple, l'interaction sociale, ça protège. Ce n'est pas juste une chose qui va changer. Quelqu'un qui a été très actif, mais qui a quand même une glycémie...
Oui, ça peut être un risque.
C'est connu comme un facteur de risque. Donc, il faut mettre tout ça ensemble, regarder ça bien en avant. Et je suis tout à fait d'accord. La maladie est là 10 à 15 ans avant, même s'il n'y a pas de signes cliniques.
On va écouter une dernière question, celle de Grégory, sur notre répondeur, pareil.
Bonjour, j'ai une question pour Arkana Singh Manu. Je me demandais quel autre conseil elle donnerait pour retarder l'arrivée ou la progression de la maladie. Merci d'avance.
Alors, vous avez donné quelques conseils déjà à la glycémie, ses interactions sociales. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte ?
Je crois que le cerveau vieillit tout au long de la vie. Donc, il faut pas, on peut pas arriver à 70 ans et dire... Qu'est-ce que je fais ? Donc, je pense qu'il faut rester active, il faut évidemment gérer les facteurs de risque cardiovasculaires et métaboliques, donc glycémie, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire beaucoup. Mais pour le moment, on commence juste à dire que la prévention pour la maladie d'Alzheimer commencerait très tôt, dès 40 ans, 50 ans. Ça, c'est déjà nouveau. Si on peut... faire accepter cette idée qu'il faut réfléchir de cette façon, je crois que ça serait déjà un plus. J'espère que dans les années à venir, on aura identifié un petit nombre de facteurs de risque qu'il faut contrôler ou de protection qu'il faut promouvoir pour avancer. Mais pour le moment, je ne pourrais pas vous donner la liste de 10 choses qu'il faut faire.
Et juste pour terminer, est-ce que parmi la prévention, il faut aussi s'occuper, si j'ose dire, des gens qui sont isolés et qui justement sont peut-être accumulent peut-être les facteurs de risque en termes d'interaction sociale.
Mais je pense que en termes de stratégie de vie, c'est bien de ne pas se isoler pour plein de choses, pour la santé mentale, pour juste rester connecté avec la vie. En général, c'est une bonne chose. Mais je pense que c'est une bonne stratégie de chercher à être engagé avec la vie.
On se quitte sur ces belles paroles et on se retrouve dans 15 jours avec pour l'invité l'Institut municipal qui vous offre des tas d'activités. À bientôt et soyez fidèles à Radio G.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.